fait cette déclaration, vous pouvez répéter après moi. Dit, voici ma Bible. La foi vient de ce que j'entends et je décide d'entendre la parole de Dieu. Je donne libre cours à l'Esprit de Dieu, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je demande à Dieu de me remplir de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais je mets la parole en pratique et je suis heureux dans mon activité. Je crois que je reçois au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, je vais reprendre quelque chose que j'ai dit quelques semaines passées pour aller plus loin, d'accord? Donc, Jésus nous a donné deux mandats, deux choses très particulières qu'il nous a dit. Premièrement, il nous a dit de prêcher la bonne nouvelle. Tout le monde dit la bonne nouvelle. J'étais en train de lire en Actes chapitre 17 ce matin où Paul est bouillonne en lui parce qu'il voit à Athènes qu'il y a des dieux à tous les noms et tous les noms, mais il est fâché parce que mais quand il parle avec les gens, il parle pas de sa colère, hein, il parle du statut au dieu inconnu et il dit ce que vous connaissez comme inconnu, je vais vous annoncer. Amen. Faut que nous rappelons que quand nous prêchons aux gens, on se met pas en colère avec eux, on parle de la bonne, tout le monde dit bonne nouvelle. Amen. C'est le premier parti de notre mandat. Deuxième mandat, c'est de faire des disciples. Tout le monde dit faire des disciples. Okay, donc je vous donne deux versets. En Marc chapitre 16, verset 15, la parole de Dieu, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Tout le monde dit bonne nouvelle. Oui, je sais, quelquefois on a envie de se fâcher. Oui, on est entouré des gens qui passent le temps à critiquer, parler mal, mais nous avons besoin de parler une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Et après, en Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. Dit toutes les nations? On va pas compter ce matin, mais nous sommes beaucoup de nations représentées ici, n'est-ce pas? Mais il dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, nous avons ces deux mandats. Je veux parler un instant de la croissance de l'Église. Parce qu'on va parler de stimuler notre croissance spirituelle. Tout le monde dit ma croissance spirituelle. Mais nous devons comprendre qu'il y a deux choses qui intéressent Dieu. Il y a une croissance quantitative. C'est le bon mot, quantitative? Oui, quantitative, oui, je sais, il y a un syllabe de trop là pour moi. Une croissance quantitative, c'est ça? Et après, on va parler de la croissance qualitative, amen? Donc, est-ce que ça vous intéresse, la croissance quantitative? Quantitative, ah là, numérique. Je fais comme ma femme, d'accord? Quand je n'arrive pas, elle n'arrive pas à prononcer une parole, elle utilise une autre. Donc, ça vous intéresse, la croissance numérique? Vous voulez voir davantage des personnes venir au Seigneur? Oui? Ok, donc on va voir vite quelques versets. Donc d'abord, Matthieu 16, 18. Comprends ceci, que l'Église n'est pas l'idée de des hommes. C'est l'Église de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes des séjours de mort ne prouveront point contre elle. Amen? C'est Jésus qui a dit. Hallelujah. Il y a quelque chose de très très important ici parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent croître sans faire partie d'une église. C'est une grande erreur. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prouveront point contre elle. Il y a un ennemi de nos âmes, mais il peut très peu faire quand nous sommes entourés par nos frères et sœurs. Nous sommes plus forts qu'ensemble que seuls. Oui? Donc, on va parcourir Actes chapitre 2, 47. L'église primitive ont vu la croissance numérique. Il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots avec moi? Dis avec moi, chaque jour. OK. Après Actes chapitre 5, verset 14, il dit, le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Là, je veux que vous dites homme et femme. Parce que pour certains, la religion, même la chose spirituelle, c'est une affaire de femme. Mais il dit quoi là? Homme. Et tout le monde dit homme et femme. On veut une croissance numérique d'hommes et de femmes. Vous êtes d'accord? Est-ce que les hommes, est-ce que vous êtes contents qu'il y a d'autres hommes ici? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi nous avons des hommes dans notre église? Parce que la parole dit, oui, ce que vous dites s'accomplira. Et j'ai commencé cette église avec ma chère et tendre Laura, il y a 27 ans passés, et nous avons eu 3 autres femmes, on était 5 dans mon appartement, première, deuxième célébration, une autre femme s'est ajoutée, donc on est 6 la deuxième fois, et je dis, Seigneur, j'appelle des hommes. Amen. Et vous savez ce que Dieu fait? Il fait ce qu'on demande. Et il fait ce que nous disons. D'accord? Amen. Donc vous pouvez souligner ça dans votre Bible, si vous voulez. Actes 5, 14, hommes et femmes. D'accord? Actes chapitre 6, verset 7 dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Et là, je veux que vous dites augmentez beaucoup. Vous croyez que Dieu peut faire ça ici? Vous croyez que Dieu peut faire ça en France? Vous croyez que Dieu peut faire ça dans le monde francophone? Moi, je le crois. Amen. Tout le monde dit augmenter beaucoup. Gloire à Dieu. Acte 9, 31, il dit que l'Église était en paix. Ça, c'est une bonne chose. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Tout le monde dit l'assistance du Saint-Esprit. Parce que nous sommes une Église qui aime la parole, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes connus même pour une église de la parole de Dieu parce que nous enseignons la parole de Dieu. Mais vous savez, la parole toute seule va vous dessécher. Et l'esprit toute seule va vous faire s'envoler. Mais la parole et l'esprit va vous faire croître. Amen. Et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Individuellement en tant qu'église. Gloire à Dieu. Amen. Acte, où est-ce que je suis? 12. Et verset 24, dit « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Tout le monde dit « augmenter ». Hallelujah. Qu'est-ce que vous êtes en train d'appeler sur l'Église? Notre Église, l'Église en France. Oui. Dernier, acte 16 et verset 5, « L'Église se fortifiait dans la foi et augmentait en nombre de jour en jour. » Dis avec moi de jour en jour. Vous aimeriez voir Dieu ajouter à notre église de jour en jour, chaque jour, beaucoup, hommes et femmes, par l'assistance du Saint-Esprit? Ah, ça, c'est des bonnes choses à dire, n'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu pour chaque église. Amen? Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, comme je dis, la croissance numérique est une chose, mais faire des disciples est une autre. Amen? Si on dit, oh, on a seulement besoin de voir les gens sauvés, nous faisons seulement un mandat que Dieu a donné. Et le deuxième mandat nous concerne beaucoup en tant qu'Église, c'est de faire des disciples. Ça veut dire que les gens qui marchent dans les traces de Jésus. On ne fait pas des disciples après nous, nous faisons des disciples après Jésus. Vous êtes d'accord? Oui, certains font des disciples après eux-mêmes. Je pense que c'est une erreur. Il faut qu'on fait des disciples de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Amen. Ce que j'ai appris, c'est que je pense qu'il y a un dicton qu'on peut amener un cheval. En anglais, on dit on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le faire boire. Est-ce qu'il y a un dicton français? Pas. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, je veux vous donner soif ce matin, d'accord? Parce que je ne sais pas si vous réalisez ou pas, mais vous êtes responsable pour votre vie spirituelle. Est-ce que vous le savez? Ou peut-être vous avez cru que c'est la responsabilité du pasteur. Mais je ne peux pas vous faire manger. Amen. Est-ce que vous comprenez que vous êtes responsable pour votre vie physique? Amen. Donc normalement, on n'a pas besoin de faire manger les gens, on a besoin plutôt de les arrêter manger, n'est-ce pas? Physiquement, on mange souvent trop. D'accord? Mais est-ce que vous acceptez votre responsabilité sur votre vie physique? Amen. Moi, j'enseigne beaucoup, oui, sur l'esprit, âme et corps, et je dis toujours, il faut que nous connaissons physiquement qui nous sommes, combien de sommeil on a besoin. Amen. Nous avons besoin de faire d'exercices. et nous avons besoin de manger correctement. Oui? Amen. Je sais, si je mange trop, je grossis. Et je sais que beaucoup de gens pensent, parce que j'ai une ligne assez... qu'est-ce que c'est, svelte? Oui? Que les gens pensent que c'est facile pour moi, mais je suis exactement comme vous. Si je mange trop, si je mange des mauvaises choses, je prends du poids. Gloire à Dieu, j'aime courir. Oui? J'avais une amie, elle a dit à mon frère, est marathonien. Il dit, oh, il aime courir. Elle dit, non, il aime manger. J'ai trouvé ça très drôle, n'est-ce pas? Mais il faut que vous compreniez. Physiquement, vous êtes responsable pour votre vie. Spirituellement aussi, vous êtes responsable pour votre vie. Parce que je ne pense pas que vous serez très content si je vous ai appelé ce matin quand je suis levé. Et vous dites, vous vous levez maintenant, vous vous douchez maintenant, vous vous habillez maintenant et vous venez à l'église. Qui serait content que je vous ai fait? Après, je vous dis quelle heure je suis levé ce matin. Hein? Je suis un lève-tôt. Vous n'aimerez pas ça, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de formidable que Dieu nous a donné. Ça s'appelle le libre arbitre. Amen. Oui, on aurait aimé personne derrière nous avec un fusil en train de dire « Tu dois faire ceci, tu dois faire... » Ça, c'est un dictateur. Et on ne veut pas ça, n'est-ce pas? Mais ce que je veux, c'est vous donner envie de manger, envie de boire, envie de croître spirituellement. Je veux stimuler votre croissance spirituelle. Amen. Je ne peux pas manger pour vous. Au moins, si je mange pour vous, c'est moi qui va prendre le poids. Amen. Et je peux manger tellement bien, exactement quand il faut, mais ça n'aidera pas votre corps physique. Vous êtes d'accord? Et je sais, en tant que pasteur, j'ai des responsabilités. Responsabilité de vous prêcher la parole de Dieu, responsabilité surtout de diriger cette église dans les voies du Seigneur, et responsabilité, et nous prenons ça très au sérieux, Laure et moi-même, et toute l'équipe pastorale, nous sommes 11 dans l'équipe pastorale, d'être des exemples. Amen. Parce que c'est très bien qu'on est là en train de prêcher. C'est assez facile, prêcher aux autres ce qu'ils devaient faire. Mais c'est autre chose de dire, vous devez le faire et je suis en train de le faire. Comme Paul a dit, suivez mon exemple, comme moi je suis l'exemple de Christ. Amen. Mais en même temps, je ne peux pas vous forcer de le faire. Je suis pasteur depuis 27 ans. Je prêche l'évangile de plus que 31 ans maintenant. Oui. Commencé avec Laura, donc quand nous étions jeunes mariés, de prêcher la parole de Dieu. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et malheureusement, j'ai vu des gens, oui, qui tournent en rond. Qui ne semblent pas grandir. Qui semblent, tu les rencontres 5, 10, 15, 20 et quelques-uns 25 ans. Et tu les retrouves avec les mêmes problèmes. Et moi, je dis, c'est pas normal. Vous êtes d'accord? Vous aimeriez avoir la même situation que vous avez aujourd'hui, en 20 ans? Non, j'espère pas. J'espère que vous êtes comme moi et vous dites, je veux avancer dans le Seigneur, je veux laisser ces choses derrière moi. C'est pas normal de continuer à confronter les mêmes problèmes. Vous êtes d'accord? Ok, bien. Donc, je pense que je vous donne soif là. Ce que j'ai remarqué avec les gens qui tournent en rond, normalement, c'est qu'il y a une... quelqu'un appelle ça une génération sans père. Moi, je dis, c'est des gens sans église. C'est des gens, moi, je dis souvent, qui sont trop spirituels pour leur propre bien. Ils disent, ouais, mais moi, je fais comme moi, je suis l'église. Mon église, c'est l'Internet. Ouais, mon église, c'est la télé. Mon église, c'est où je sens que Dieu m'envoie. Moi, je dis, ça peut sembler très spirituel. Je me lève dimanche matin, je prie le Seigneur pour demander où je devais aller, et s'il dit rien, je reste au lit. C'est un petit peu comme je lis ma Bible et j'ouvre comme ça et je lis n'importe où. C'est super quand vous êtes tout jeune converti. Mais après, vous avez marché avec le Seigneur quelques années, vous devez avoir une lecture quotidienne, oui, suivie pour que vous avez lu toute la Bible et que vous savez où vous êtes en train de lire et avancer avec le Seigneur. Vous êtes d'accord? Amen? Je reprends Matthieu 16, 18, qui Jésus dit, « Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prouveront point contre elle. » C'est vital pour nous, oui, de faire partie d'une église, d'une famille. Je ne sais pas si vous avez lu donc la Bible, mais quand on lit la Bible, on réalise que Dieu est un père et que la première chose qu'il a dit, une des premières choses qu'il dit à Adam et Ève, c'est de quitter leurs parents, de s'attacher et de fonder une famille. Et l'église parle de famille de bout en bout. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs et nous avons besoin les uns des autres pour nous remuer, pour nous stimuler, pour qu'on puisse croître spirituellement. Amen. Alléluia. Je vous donne deux versets. Donc, un verset qui dit 1 Pierre 2, 2. Il désirait, comme des nouveau-nés, le lait spirituel et pur, hein, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Hein? Certaines versions disent désirait comme les nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce que vous désirez la parole? Amen. Un autre verset dit en 1 Corinthiens 13, on appelle ça toujours le chapitre de l'amour, n'est-ce pas? On lit ça souvent au mariage, des choses formidables qui sont dites. Mais je dis, c'est aussi un chapitre qui parle des dons spirituels et qui parle de la croissance spirituelle. Et Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ouais. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qui a fait disparaître? Paul dit, qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant? Lui-même. Amen. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfance. Amen. Il faut être comme un nouveau-né qui désire, qui ne peut pas vivre sans le lait spirituel pur de la parole, mais il ne faut pas que nous restions dans cet état de bébé. Amen. On a besoin de grandir. J'ai oublié de distribuer, peut-être vous avez, certains de l'église, vous avez déjà, que je peux avoir 2-3 personnes? Tu peux? Alléluia. C'est le thème et la vision pour cette année. J'ai besoin de quelqu'un ici. Ezekiel, tu peux? Je garde. Alléluia. J'étais très naïf. En tant que jeune pasteur, j'ai cru que quand j'ai prêché un message, que tout le monde, pas seulement écoutait mon message, mais rentrait à la maison pour le mettre en pratique dans leur vie. Oui. Dans plusieurs années, j'ai prêché chaque dimanche un différent message, croyant que les autres avaient compris. Et j'ai réalisé après un moment, mais c'était pas comme ça. Oui. Que certains n'avaient même pas entendu ce que j'ai dit. Oui. Même pas pensé à changer quelque chose dans leur vie, et j'ai commencé d'enseigner des séries. Oui, où on faisait 2, 3, 4, 5, 7, quelquefois plus, semaine sur un sujet, parce que j'ai vu que les gens, force à entendre les choses, commençaient de faire quelque chose. Parce que vous savez, ce n'est pas que le fait que nous avons entendu, ce n'est pas que nous savons les choses qui fait une différence dans notre vie, vous êtes d'accord? C'est quand nous commençons à les mettre en pratique dans notre vie que ça fait une différence. Et ces dernières années, je suis allé un peu plus loin, vraiment, je crois, dirigé par le Saint-Esprit, c'est de donner un thème pour chaque année et de traiter ce thème et de continuer dans ce thème pendant toute l'année. Le thème de cette année, c'est « Vous êtes la prunelle de ses yeux ». Amen. Est-ce que ça vous travaille? Oh, j'espère. J'espère que vous pensez ça de vous-même et j'espère que vous pensez ça des autres. Et j'ai mis 5 points. Je ne vais pas regarder les autres. Je veux prendre le point 3, ouais, qui est très, très clair sur la feuille, mais aussi sur les écrans. Il est développer le chemin des disciples d'une manière lisible pour que les nouvelles personnes ainsi que les membres de l'Église puissent croître. Amen. Et j'ai ajouté à ça, la participation active à un groupe de maison figure au cœur de ce processus de croissance. Amen. Je relis. La participation active, vous savez, il y a des gens qui viennent à l'Église et ils sont là. Et on peut compter qu'ils soient là, mais on ne les voit pas changer. Il faut qu'on soit actif dans notre vie dans l'Église. Amen. D'accord. Comme je dis souvent quand je fais des séminaires, si je marche sur vos pieds, à la fin, on va prier pour vos orteils. D'accord. Oui. Jésus a dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça me travaille beaucoup que Jésus n'a pas dit « Je suis l'arrivée ». Parce que certains croyants en acceptant Jésus, ils sont arrivés. Non, vous démarrez votre vie spirituelle avec Dieu quand vous acceptez Jésus. Mais il dit « Je suis le chemin ». Ça veut dire qu'il y a des routes à faire. Amen. Et moi, je dis, c'est beaucoup plus sympa de faire la route avec d'autres que faire des routes toutes seules. Vous êtes d'accord? Et il y a d'autres qui veulent faire route avec vous. Mais nous avons une vision, Acte 20-20. Je dis une vision 20 sur 20, est très bon, n'est-ce pas? Et Acte chapitre 20 sur 20 dit, oui, chapitre 20 verset 20 dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile. » Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Et nous essayons, oui, de vous enseigner, comme quelqu'un dit, de cuir en cuir. Oui, du commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, nous essayons de rien, oui, oublier, rien ignorer, parce que ce livre est utile pour notre croissance spirituelle. C'est utile et ça nous corrige. Et ça nous enseigne, et ça nous forme. Amen? D'accord? Hallelujah. Mais nous avons réalisé. Vous savez, il faut de temps en temps s'arrêter et faire un petit bilan d'où nous sommes. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas si vous le faites. C'est une bonne chose à faire au commencement de l'année, au fin de l'année. C'est bonne chose à faire. Chaque fois qu'il y a un changement dans notre vie, dit, oh, je suis arrivé où? Et qu'est-ce qui m'a amené là? Est-ce qu'il y a des choses utiles dans ma vie? Mais est-ce qu'il y a des choses inutile dans ma vie. Et nous avons réalisé, en analysant un petit peu la vie de l'Église et les gens de l'Église et comment ils étaient en train de croître spirituellement, que les gens à Victoire Centre Chrétien arrivaient par hasard, ouais, à la maturité. Et on dit, c'est pas bon. C'est le but de l'Église. Si c'est les gens arrivent, on dit au hasard ou par hasard? Par hasard à la maturité spirituelle. Quelque chose ne va pas. Et nous avons commencé une réflexion qui a pris plusieurs années. Et on a commencé à établir les choses et rétablir d'autres choses pour qu'on puisse assurer que n'importe qui vient dans cette église puisse arriver à la maturité. Amen? Parce que nous trouvons que c'est tout à fait normal et logique pour chaque bébé qui naît de grandir et arriver à la maturité, n'est-ce pas? Amen? Donc, ça devait être tout à fait normal et logique pour chacun qui naît spirituellement d'arriver à la maturité. Et l'église est là pour aider les gens à arriver à la maturité. Je sais, on a des super moments de louange. On a des super moments du mouvement du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y a un changement dans notre vie? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce que c'est un ensemble avec plein d'autres choses qui fait de nous des gens qui ne sont pas seulement changés, mais qui changent notre société? Parce que c'est l'œuvre et l'appel de l'Église, n'est-ce pas? OK? Donc, nous avons rétabli des groupes de maisons et nous avons commencé ce qu'on appelle un chemin de disciples, oui, pour assurer que chacun, il y a un petit design là sur l'écran, que du commencement, quand les gens arrivent dans l'église, oui, jusqu'à que la fin de leur vie, s'ils restent ici ou ils partent ailleurs, qu'on puisse les aider, oui, à grandir spirituellement. Donc tu vas voir, il y a la salutation, donc avec l'accueil, il y a la présentation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, une rencontre avec les pasteurs. Il y a la fondation, les fondements du croyant. Il y a, laisse l'autre, oh, c'est bon. Oui, il y a devenir membre. Oui, il y a formation pour travailler en équipe. Et ce que je veux que vous sachiez, vous pouvez revenir aux premières images, s'il vous plaît. Oui, à travers tout, oui, je reviens ici, à travers tout cela, il y a des groupes de maisons. Oui. Parce que ça fait partie de certaines personnes entrent dans un groupe de maison avant qu'ils viennent à l'église. D'autres y arrivent dans l'église, ils entendent pour la première fois qu'il y a un groupe de maison. Mais les groupes de maison, c'est pour quelque chose de suivi, de constant, pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur. Amen? Est-ce que vous comprenez cela? Amen? Et notre désir, c'est de voir chacun dans un groupe de maison. C'est quoi un groupe de maison? Ce n'est pas une étude biblique, ouais, établie par n'importe qui, faisant n'importe quoi. Vous comprenez, en tant que chrétien, nous avons une liberté. Vous pouvez avoir, et moi j'encourage les gens d'avoir un partenaire de prière. Vous n'avez pas besoin de demander à l'église, est-ce que je peux prier avec telle personne? Au moins, j'espère que vous ne voyez pas l'église comme ça. Vous pouvez faire une étude biblique avec qui que vous voulez, quand vous voulez. Oui, mais nous, je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose établi dans la vision de l'église qui avance ensemble. Amen. Ce que nous avons établi dans l'Église, c'est des études bibliques où les gens viennent ensemble, il y a un dirigeant, on peut appeler ça un animateur si vous voulez, oui, qui anime une étude biblique que toute l'Église fait ensemble, sur des sujets qu'ils regardent ensemble, souvent en série sur plusieurs semaines, pour que ça avance avec l'Église. Amen. L'idée, c'est d'amener les gens à une croissance spirituelle. Amen. En réalité, nous avons commencé de former des leaders de groupes de maison, et on a commencé des groupes de maison avant qu'on a commencé l'église. Avant qu'on a eu notre première célébration d'église, on a commencé des groupes de maison. Et la première personne qui a été sauvée n'était pas sauvée dans l'église, elle était sauvée dans un groupe de maison. Amen. C'est quelque chose que Dieu nous a dit. J'ai un verset pour vous en Actes 17:11. C'est très intéressant. Lisons donc les Actes des apôtres et comment l'église a été établie, les choses que Dieu a fait. Oui. Et il parle ici des Juifs de Bérée, je crois. Oui. Et il dit, les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, donc qui avaient un peu rejeté la parole. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un croyant qu'on se met à regarder les Écritures et dire, mais est-ce que c'est marqué dans ma Bible? Amen. Et l'idée des groupes de maison, c'est qu'ensemble avec des frères et sœurs, on puisse voir ces choses et poser les questions et trouver des réponses dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que l'étude biblique stimule la croissance spirituelle. Amen. Ça nous met devant notre Bible. Et certaines personnes disent, mais je ne sais pas lire la Bible. Mais le même instant qu'on est avec d'autres personnes, oui, c'est facile, n'est-ce pas, de s'asseoir dans une célébration avec un petit... j'ai perdu le mot... on peut se cacher, n'est-ce pas? Disant, mais tout le monde croit pareil, tout le monde est en train de faire cela. Mais quand on est dans un groupe de croyants et qu'on pose les questions, on ne se cache pas de la même façon, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je donne mon témoignage personnel. Ouais, en tant que jeune chrétien, donc je n'étais pas élevé dans une église. Je n'ai jamais assisté à une église. D'accord? On ne priait pas à la maison, on ne lisait pas la Bible à la maison. Je n'avais jamais assisté à aucune messe, ni un mariage, ni un enterrement, ni une présentation. Non, moi, j'étais élevé sans église, d'accord? Et sans Dieu dans ma vie. Donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était à travers un groupe de jeunes attachés à une église anglicane. Donc, je n'étais pas anglicane, j'étais rien. Oui? Si tu demandais ce que j'étais, je disais à tout le monde, j'étais anglicane parce que c'est ce que les Anglais disaient. Oui? Mais le fait que tu n'as jamais été dans l'église anglicane, c'est difficile à dire que vous êtes un anglicane, n'est-ce pas? Mais je disais ça. Donc, j'ai allé à ces groupes de jeunes, j'ai rencontré les chrétiens pour la première fois dans ma vie, ils m'ont parlé de Jésus et j'ai invité Jésus dans ma vie. Et c'était formidable. Ouais. Et j'ai assisté à l'église anglicane, je pense, 2 ans. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Je pense que les traditions étaient un peu difficiles pour moi parce que je n'avais aucune tradition. Et pendant ce temps... Oui, il n'y avait pas d'études bibliques, on avait des groupes de jeunes et on regardait les choses et j'entendais les prédicateurs. Après, je suis allé dans l'église baptiste. Oui, une des raisons pour laquelle j'ai changé d'église, c'est parce que le pasteur anglican n'était pas rempli du Saint-Esprit, c'était un homme de Dieu qui aimait Dieu, mais j'avais l'impression qu'il m'a emmené aussi loin qu'il pouvait. D'accord? Donc, j'ai changé d'église, je suis allé dans l'église baptiste et dans cette église, ils avaient des groupes de maison. Les gens se réunissaient dans les maisons pour étudier la parole de Dieu. Et j'étais un jeune homme à l'époque. Ouais, je pense que j'avais quoi, 17 ans. Et je me trouvais avec les gens 3 fois mon âge. Ouais, j'aurais pu être le petit enfant de certaines de ces personnes. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Ouais, pourquoi? Parce qu'à l'école et après à la faculté, j'étais entouré des gens du même âge qui se croyaient tout savoir, mais qui n'avaient encore rien vécu. Hello? Vous vous rappelez, certains de vous, c'est lointain, d'autres, vous êtes là maintenant, vous croyez tout savoir. Mais on croit tout savoir jusqu'au jour qu'on a besoin de payer ses propres factures, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on est face à la réalité. Ah, peut-être, je ne comprends pas. Ou peut-être, j'ai compris pourquoi papa a dit d'atteindre la lumière. N'est-ce pas? Et je suis allé dans ce groupe, donc, des études bibliques avec les gens de toutes... Ah, on a commencé l'étude de la parole de Dieu et j'ai pu pour la première fois poser des questions à des gens à part ma sœur. Donc j'ai une grande sœur, certains vous ont rencontré Val. Oui. Elle était celui qui m'a aidé le plus au commencement parce que chaque fois que je lui posais une question, j'ai dit on va regarder dans la parole. Hein? Mais je ne parle pas de cette aide personnelle, je parle de cette entente ensemble et cette communauté, oui, dans un groupe des gens qui étudient la parole de Dieu. Il a fait quelque chose dans ma vie. Tu vois que quand j'avais une question, les gens répondaient, on va voir ce que la Bible dit. Et c'était devenu, tu vois, entre ce que ma grande sœur avait fait avec moi, mais j'ai trouvé tous ces gens, mais comme je dis, beaucoup de ces gens étaient établis dans la vie. Ils étaient déjà mariés depuis des années, avec des enfants, d'autres avec des petits-enfants, et j'ai vu la grâce de Dieu dans leur vie. C'était quelque chose. Parce qu'on peut être assis à côté des gens dans l'église, n'est-ce pas, dans les célébrations, hein, et on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous êtes d'accord? Mais quand on rencontre les gens, moi je me rappelle aller dans une grande maison chez un couple, et il était donc direct d'une grande entreprise internationale. Donc moi je dis, mais il doit venir d'une grande famille, tu vois, il a passé du père en fils et tout le reste. Et j'ai appris qu'il a commencé dans cette même entreprise, en tant que le garçon qui poussait le chariot de thé. Donc, je ne sais pas si vous comprenez cela, mais en Angleterre, c'est peut-être la poste le plus important dans toutes les entreprises, parce que si les gens qui travaillent n'ont pas leur thé, ils ne peuvent plus travailler. Ouais, donc, pour ceux qui ne sont jamais allés en Angleterre, vous n'avez pas les amis anglais, vous ne comprenez pas, mais vous savez, sans le thé en Angleterre, c'est un petit peu comme les Français sans le café du matin. Ouais, sauf que les Anglais, c'est tous les heures. D'accord? Et il a commencé, il poussait le petit chariot. Oui, et il donnait le thé. Il avait son théier et il donnait le thé à tout le monde. C'était où il a commencé dans cette entreprise. Mais il a aussi donné sa vie au Seigneur. Et il a pris des décisions de marcher avec Dieu. Et j'ai vu la bénédiction dans la vie de cet homme des années plus tard. Qui a grimpé tous les marches et il était tout en haut. Et son témoignage a fait quelque chose dans ma vie. Et j'étais en train d'étudier la parole de Dieu avec lui et avec d'autres. Amen. L'idée des groupes de maison, l'idée d'étudier la parole de Dieu fait une énorme différence dans notre vie. Amen. Et je voulais partager ça avec vous. Aussi, quand j'étais à la faculté, ouais, on vivait dans différents quartiers, des étudiants, on était 300 étudiants chrétiens sur le campus, et on s'est divisé en différents quartiers pour faire des études bibliques. Et ce que j'ai vu là, différent, parce qu'on était tous du même âge, donc tout aussi inconscient que l'autre, des réalités de la vie, mais ce qu'on avait à cœur, c'est de gagner les gens qui étaient en études avec nous au Seigneur. Et dans ce groupe études bibliques, on a commencé à inviter les gens. Et on a pris une décision, on a dit, on a 9 mois ensemble, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et on était 9 étudiants au commencement, on dit, ce qu'on aimerait faire, on aimerait être 18 à la fin de ces 9 mois. Donc on a étudié la parole de Dieu et on a invité les gens. À la fin des 9 mois, on était 18. C'était formidable. Et en réalité, c'est les deux buts donc de nos groupes de maison dans l'église ici avec 300 chrétiens. L'un, c'est un endroit où on peut inviter les gens. Pour certains gens, c'est effrayant d'être invité dans l'église. Parce que quand on parle d'église, ils pensent à autre chose de ce que nous considérons église, n'est-ce pas? Donc c'est un endroit où on peut inviter les gens et on connaisse les gens assez bien de leur dire avant qu'ils arrivent, écoute, il est un peu timide, il est un peu réservé ou il est un peu différent ce gars, n'est-ce pas? On a déjà prié pour ces gens avant les inviter, mais c'est aussi l'endroit où on peut inviter les gens, mais aussi l'endroit où on peut étudier la parole de Dieu ensemble, faire connaissance avec les gens et partager certaines choses un peu plus intimes. Parce que dans l'église ici, quelqu'un dit, moi j'ai besoin de prier, moi je n'annonce pas ça devant tout le monde. Je ne trouve pas que c'est correct. Mais dans un groupe de maison, quelqu'un a difficulté, dans un domaine, on peut dire, on se connaît, voilà, on va prier pour cela. C'est autre chose, n'est-ce pas? Moi, je suis en train de parler de comment stimuler votre croissance spirituelle. Moi, je dis, peu importe l'âge, spirituel et naturel. Peut-être vous commencez dans le Seigneur, peut-être vous êtes dans le Seigneur depuis longtemps. Oui, c'est l'occasion, oui, d'étudier la parole de Dieu ensemble. Amen. Donc moi je dis, j'ai 4 réponses que vous puissiez avoir aujourd'hui à ce que j'ai dit. Oui. Première réponse, c'est je veux me joindre à un groupe et assister régulièrement. Amen. Ce que nous aimerions, c'est que chacun qui vient dans cette église fait partie d'un groupe de maison. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que ça va vous aider à croître spirituellement. D'accord? Deuxième chose, vous dites, mais il n'y a pas de groupe dans mon quartier. Priez pour un groupe d'ouvrir dans votre quartier. Amen. Donc j'espère que vous avez dépassé ce stade où vous dites, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est tellement facile de vivre ça. Il n'y a pas, donc je ne fais pas. Il faut qu'on arrive à le stade où on dit, il n'y a pas encore. Amen. Ajoutez un petit mot comme ça, change tout. Et on commence à dire, merci Seigneur pour un groupe qui va s'ouvrir dans mon quartier. Amen. Ou un groupe qui convient à mes horaires de travail. D'accord. Troisième chose, c'est ouvrir votre maison pour un groupe. Je trouve que c'est formidable, ouais, d'avoir des amis chrétiens à venir chez nous, étudier la parole de Dieu chez nous. C'est vraiment un privilège de le faire. Amen. Autre chose, quatrième chose, c'est de dire, mais moi je connais beaucoup de choses, j'ai avancé dans le Seigneur, moi je fais partie d'un groupe, j'ai pas besoin. Moi j'entends ça souvent. Je dis, oui, mais donc vous devez être en train de dire, mais peut-être je dois me préparer pour devenir un dirigeant de groupe. Amen. Et certains d'entre vous devaient être dirigeants de groupe depuis longtemps. Si Laure est ici, je lui demanderai de témoigner. Elle n'est pas, donc je témoigne pour elle. Elle est partie à la faculté et elle a eu quelques difficultés et elle a appelé ses parents spirituels. Ouais, son père est né de nouveau 6 mois avant elle. Sa maman est née le même jour qu'elle, spirituellement, ils ont accepté le Seigneur. Eh bien, elle avait un couple dans leur ville qui était chrétien depuis longtemps, qui a un petit peu adopté Laura spirituellement. Je ne sais pas, vous comprenez ce terme d'avoir des parents spirituels. Donc, elle a appelé ses parents spirituels, elle a dit, ça ne va pas, tu vois. Elle a commencé un petit peu de se plaindre, son lot. Et ses parents spirituels ont dit, mais vous êtes chrétien maintenant depuis 9 mois et vous êtes en train de réagir comme un bébé. Donc, ce n'est pas du tout ce que Laura a attendu. Elle attendant qu'il leur beurre son corps, tu vois. Il dit, c'est pas grave, tu vois, on peut régler ça. Il dit, vous pensez qu'à vous, il faut que vous commencez à penser à les autres. Et ils ont vraiment remué pour qu'elle commence à inviter les gens et parler avec les gens du Seigneur. Donc, elle a commencé un groupe. Il n'y avait rien sur le campus à l'époque. Donc, elle frappait sur toutes les portes, dit, on va faire un groupe ce soir, on va parler de Jésus. Elle dirait elle-même, je ne savais rien sauf que Jésus les aimait. Elle a commencé à réunir les gens et ouvrir leur Bible avec eux. Amen. C'est quelque chose. Vous pouvez faire ça chez vous, comme ça, à l'improviste. Moi, je dis, ça ne va pas durer très longtemps. C'est très difficile de préparer et de diriger quelque chose toute seule. Mais dans l'Église, on a des études préparées par lesquelles on peut avancer avec l'Église ensemble. Amen. Et moi, je vous encourage, faites partie d'un groupe de maison. Préparez-vous pour diriger un groupe de maison. Ouvrez votre maison. Demandez au Seigneur pour un groupe, ouais, dans votre quartier. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à croître spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe quand nous étudions la parole de Dieu ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Hallelujah. Nous avons décidé dans l'Église de ne plus laisser la croissance spirituelle de chaque personne, ouais, au hasard. C'est pourquoi nous avons établi ces différentes étapes, établi les groupes de maison. Ouais, il ne faut pas que vous laissiez votre vie spirituelle et votre croissance spirituelle au hasard. Vous comprenez? Ouais. Nous devons réfléchir sérieusement de comment nous voulons être d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous êtes d'accord? Amen? Sur tous les plans, mais surtout sur le plan spirituel. Et moi, je vous dis, si vous n'êtes pas dans le groupe de maison actuellement, ça va faire une différence énorme dans votre vie, d'étudier la parole avec les autres. Vous allez établir des amitiés. Vous allez voir des prières exaucées, parce que quelque chose de prier avec les autres. Mais surtout, vous allez dire, je commence à comprendre les choses. Je commence à saisir les choses et j'ai un endroit où je peux poser des questions, où les gens ne se moquent pas de moi, où je ne sens pas petit, je se sens aimé. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces moments ensemble. Merci pour mes frères et sœurs. Seigneur, je réalise qu'il y a des gens qui sont tout jeunes dans le Seigneur, comme il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps. Et Père, je demande dans le nom de Jésus qu'ils puissent entendre ce que ton esprit est en train de dire. Hallelujah. Moi, j'aime pas terminer une réunion sans vous donner l'occasion d'inviter Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur. Peut-être, hein, vous avez connu le Seigneur par le passé, mais vous êtes éloigné du Seigneur et vous avez besoin de revenir. Ou peut-être vous n'avez jamais entendu cette bonne nouvelle. Comme moi, je ne savais pas que Jésus est mort à ma place. J'avais seulement vu la religion, les églises avec les grands tours et les cloches. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait des gens à l'intérieur qui connaissaient Jésus et qui marchent avec Dieu. Mais si aujourd'hui, vous aimeriez inviter Jésus dans votre cœur, je vais prier avec vous comme quelqu'un a prié avec moi. Parce que je ne savais pas comment prier. Hein? Moi, je n'avais aucune idée comment on priait. Hallelujah. Mais si vous voulez, ou revenir au Seigneur, ou inviter Jésus d'être votre Seigneur Sauveur, faites cette prière avec moi. Vous pouvez répéter après moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé. Amen. Vous dites, c'est aussi simple que cela? Exactement. Jésus a fait ce qui était difficile. Amen. Avant que nous partions en compagnie, donc, pense Ridge à un chant, mais nous voulons prier pour vous. Beaucoup d'équipes pastorales ne sont pas là, mais il y a quand même Dave et Philippe et Geneviève, vous voulez venir aussi. Si vous désirez la prière, si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes revenu au Seigneur, viens vers moi. Sinon, si vous voulez la prière, un accord pour quelque chose, voyez, nous croyons dans la guérison divine, nous croyons qu'en imposant les mains aux malades, ils sont guéris. Amen. Nous nous accordons avec les gens qui ont des besoins, voyez, dans leur vie matérielle, pour du travail, les choses comme ça. Si vous voulez avancer vers quelqu'un, on va prier avec vous dans le nom de Jésus. Amen.